Bonjour, j'espère que vous allez aussi bien que moi, même que je suis revenu de vacances. Il faisait 15 degrés en Suède, j'étais bien. J'ai emmagasiné du froid, mais je ne peux pas vous le transmettre, c'est déjà tout parti, ça a fondu. Viens faire la fête. On transitionne un peu, parce qu'effectivement, le camp scout, je crois que c'était une grande fête. Et puis, on continue à faire la fête avec le lancement des Kids Games, parce que cet après-midi, c'est reparti pour un tour avec 230 enfants répartis entre Gland et Roll. Alors, je me suis dit que c'était une bonne idée de vous partager plus largement, vous qui n'êtes plus des enfants et qui ne pouvez plus participer. Je me suis dit que vous alliez être frustrés, alors je vous prends avec pour venir faire la fête avec nous. Alors, quand on pense à la fête, vous avez déjà sorti quelques trucs, hein, mais c'est le champagne, ou bien plutôt ici le verre de blanc, mais je trouvais que le champagne, ça pétillait un peu plus. C'est le but, c'est de s'amuser, c'est d'être en groupe avec des amis. C'est aussi souvent lié à la musique, vous avez déjà remarqué? Faire la fête, c'est souvent lié à la musique. Qu'est-ce qui y était cette année là? C'est... pas beaucoup, hein. Vous étiez tous en vacances ou bien c'était... Bon endroit pour faire la fête, en tout cas. Effectivement, je crois qu'au camp scout, là, ils ont bien fait la fête. Je ne sais pas si vous l'avez vu, cette photo-là. C'est impressionnant, hein. Ça fait 3,5 km, la photo-là. Et puis, ils étaient répartis sur ces différents terrains. Puis, vous avez vu la rivière qui coule, là, au milieu? Ils ont aussi ramassé un orage, puis elle a beaucoup gonflé. Alors, je pense que les organisateurs, ils ont dû un peu transpirer à ce moment-là aussi. C'était un peu sport. Donc, ils ont pu faire la fête, exprimer et puis vivre cette joie finalement du groupe parce que faire la fête, on l'a fait finalement qu'en groupe. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Faire la fête tout seul, je ne sais pas, c'est un peu moyen quand même. J'ai déjà essayé, mais ce n'est pas très drôle. C'est beaucoup mieux en groupe. Il y a une notion de joie, de rencontre. Puis là, transition subtile sur le week-end d'église, où on l'a appelé point de rencontre, justement, pour pouvoir, après ces deux années un peu où on a eu plus de peine à faire des rencontres, pour nous c'était capital, que du 7 au 9 octobre, on puisse se réunir et faire la fête en église, ensemble, les uns avec les autres. C'est vraiment notre point principal, les inscriptions sont ouvertes. Donc allez-y, parce qu'on fait la fête beaucoup mieux ensemble que tout seul, et on se réjouit de pouvoir la faire ensemble aussi à la frate. Alors moi, j'avais tout ça en tête pour préparer ce message. Et puis, au retour de mes vacances, je reçois un petit WhatsApp de Maria, ici présente, qui m'en avait déjà touché un mois avant les vacances, mais j'avais oublié parce que j'ai zappé, quoi. Et puis, elle me dit, je reviens vers toi concernant cette idée que j'avais de faire un morceau de violon en hommage à ma maman qui est décédée il y a une année. Alors, j'étais un peu... Vous voyez le grand écart entre faire la fête et puis un moment d'hommage pour la musique, par la musique. Et puis, je ne savais pas quoi faire. J'étais embêté. J'ai dit, qu'est-ce que je dis à Maria? J'avais envie d'honorer sa demande. Je me réjouissais de l'écouter. Puis, en même temps, j'avais ce thème de culte. Donc, qu'est-ce que j'ai fait dans ces cas-là? Qu'est-ce qu'on fait? On prie. Exactement. Vous n'avez pas tout perdu en vacances. Ça fait plaisir. On prie. Et... j'arrive sur le manuel d'enseignement des Kids Games, que je voulais faire, mais que je n'avais pas encore consulté. Et puis, je me dis, je vais regarder ce qu'ils prennent un peu pour le premier jour des Kids Games, parce que voilà, comme c'est le lancement, je vais aller voir ce qu'ils proposent dans le manuel des Kids Games, puis peut-être que ce sera une réponse à ma prière. Et voilà le verset qu'ils ont choisi pour faire la fête du premier jour. « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » C'est quand même pas mal les petits clins d'œil du Seigneur, hein. Qui vient sauver le pauvre pasteur en perdition pour sa prédication du dimanche matin. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Et il y a bien la notion de bonheur qui est là. Hein. Heureux, ce n'est pas malheureux ceux qui pleurent. Hein. C'est heureux ceux qui pleurent. Et s'il y a bien un truc qui est associé à la fête, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est le fait de se réjouir. Et là, Jésus emploie ce mot « heureux » avec ceux qui pleurent. Et là, on retrouve un truc qui est assez fréquent chez Jésus, c'est ce que j'appelle la pédagogie du contre-pied. Il en a fait plusieurs, hein. Je ne sais pas si vous pouvez peut-être les citer de mémoire comme ça, mais par exemple, les premiers seront les derniers, c'est pas mal comme pédagogie du contre-pied. Hein. surtout ceux qui aiment bien faire de la course, puis monter au sommet des montagnes. Prendre le contre-pied, ou bien les ouvriers de la dernière heure, ça va un peu dans le même sens. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette parabole, où ceux qui arrivent à 8 heures le matin sont payés le même salaire que ceux qui arrivent à 16 heures le soir. Tu as souvent fait ça, Pierre-André? Le contre-pied, ou bien cette phrase, celui qui veut sauver sa vie, la perdra. Et je crois que par là, comme avec cette béatitude, hein, c'est comme ça qu'ils les ont appelés, heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés, Jésus nous pousse, ses disciples, et puis toute la foule, parce qu'il annonce toujours ça à une foule qui est beaucoup plus large que simplement ses disciples, il nous pousse à aller plus loin. Il nous pousse dans des lieux de réflexion et d'expérimentation, parce que ça ne doit pas rester seulement cérébral, ça doit s'expérimenter, qui ne sont pas évidents. De prime abord, j'aurais jamais pensé à prendre ce verset pour un culte où on voulait faire la fête. Et j'aurais jamais pensé à associer la douleur des pleurs avec le bonheur. Jamais. J'ai besoin du Christ qui me guide sur ces éléments-là et qui m'y fait penser. Parce que de prime abord, c'est impossible que moi, j'y serais arrivé tout seul. Parce qu'il y a quelque chose dans le propos de Jésus et dans les propos de Jésus, parce que c'est parsemé hein, dans les évangiles, si vous les lisez, c'est impressionnant, qui nous surprend, qui nous étonne, puis peut-être même qu'il y a une pointe d'agacement, parce qu'on se dit, Jésus, je te suis pas là. C'est moyen quand même, peut-être qu'on a aussi ce type de réaction. Il y a vraiment dans les paroles de Jésus une forme de pensée, et que j'aime beaucoup, à rebrousse-poil. Il est dérangeant, Jésus, dans le sens créatif du terme. Il n'est pas dérangeant comme certains artistes qui font par provocation pure, puis là, il y en a des wagons. Pour lui, cette manière d'être dérangeant, c'est une manière de dire la pensée qui ne nous lâche pas, qui reste accrochée à notre réflexion. Ce heureux, ceux qui pleurent car ils seront consolés, ça m'a suivi maintenant toute la semaine, mais je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a là derrière? Il y a une intuition, une parcelle de vérité, et qui se renouvelle tout le temps, parce que ce verset, je le connaissais très bien. Mais là, je le vois sous un jour différent, grâce à toi, Maria, qui me permet d'avoir cet approfondissement et ce clin d'œil du Seigneur. Et il est précieux, je nous invite, puis encore on est un peu dans un temps de vacances encore, d'oser s'arrêter là-dessus, sur ces paroles de Jésus qui nous dérangent. Il veut nous faire aller plus loin, et il nous apprend, je crois, le Christ, à creuser, à aller plus loin que les apparences, à approfondir et à oser être aussi nous, des chrétiens à rebrousse-poil. Et d'ailleurs, si vous prenez l'éducation des disciples, il n'a pas arrêté de faire ça avec eux. Tout le temps, ils ont envie d'aller là, il dit « non, on va plutôt là ». Ils ont une bonne réponse, ils disent « non, c'est pas ça, moi je vous propose plutôt ça ». Je ne sais pas si vous avez remarqué, il n'y a pas tellement l'encouragement de la pédagogie du 21e siècle où on doit dire « tout va bien mon petit, c'est très bien, tu fais des bons progrès ». Il est tout le temps en train de les prendre à rebrousse-poil puis de leur dire « allez, tu peux aller plus loin, tu vas aller plus loin ». Et je crois que c'est toujours le cas pour nous. Il y a cette volonté d'aller plus loin. On a pu visiter un musée en Norvège avec nos amis les Estopés, là, qui faisaient partie de la frate puis qui sont en échange là, pendant 2 ans en Norvège. Puis ils nous ont fait visiter un musée qui s'appelle le Fram. Ça vous dit quelque chose, le Fram? Personne? Ah ben, c'est un bateau, exactement. C'est un bateau, qu'est-ce qu'il a fait? J'ai pas compris. Pôle Sud et Pôle Nord. Il était conçu pour faire des expéditions au pôle sud et au pôle nord, puis son but pour aller au pôle nord, c'était qu'il ne casse pas quand la banquise vient enserrer le bateau, mais qu'il puisse se soulever. Puis ça a marché, c'est impressionnant. Et tout ça, c'était au début du XXe siècle, dans les années 1910. Et j'ai été complètement fasciné par ces deux explorateurs, ils ont des noms norvégiens, ils s'appellent Amundsen et Nansen, portaient la joie de vivre sur eux, sur toutes les photos, ils sont... Ils sont joyeux, ils aiment faire la fête, visiblement. Mais ce qui m'a le plus frappé, vous savez quoi? C'est cette notion de vouloir aller plus loin. Qu'est-ce qui les a poussés à aller par moins 50 ou moins 60 avec 100 chiens atteindre le pôle sud? C'est un peu con, hein? Excusez-moi l'expression. Qu'est-ce qui pousse l'être humain à toujours finalement aller plus loin, à explorer. Et je crois que ça fait fondamentalement partie de la vie, et le Christ l'a compris bien avant la découverte des pôles. Et je crois que pour nous, c'est un excellent critère sur la vie de notre foi, notre vie spirituelle. Est-ce qu'on a envie d'aller plus loin? Est-ce qu'on a envie de prendre ce critère au sérieux que la vie, finalement, comme pour ceux qui explorent les pôles, c'est d'aller plus loin? Et pourquoi ce serait juste dans tous les domaines de la vie, autre que la vie chrétienne, puis pas la vie spirituelle? Et je pense que c'est un très bon test de savoir est-ce que ce genre de phrase à rebrousse-poil de Jésus, elle nous passe, justement pas à rebrousse-poil, mais comme de l'eau sur les puces d'un canard, tellement on les a entendues peut-être, hein? Ou alors est-ce qu'elles viennent encore nous chercher en profondeur, nous titiller, puis de se dire « Attends, là il y a un truc à réfléchir, il y a un truc à penser et à expérimenter. Heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés. » Et là, on passe maintenant sur la phase expérimentation. Est-ce que cette phrase de Jésus correspond à ce qui se passe, par exemple, au Kids Games? On se dit, on fait la fête, on se réjouit, on est joyeux, on a tous ces éléments-là qui sont dans ce qu'on expérimente. Eh bien, c'est 100% le cas. On réfléchit sur là-dessus, et notamment en pensant, parce que ça, c'est une photo des finales. Alors, les finales, si vous venez les voir, parce que c'est ouvert au public, vous verrez qu'il y a absolument tout qui se mélange. Il y a la joie de l'équipe qui a gagné, la rouge, puis l'équipe bleue qui a perdu d'un point sur une décision arbitrale litigieuse. Ça arrivait l'année passée avec mon fils. Hein. Tiens, je vous garantis que ce n'est pas exactement les mêmes émotions. Les rires et les joies se mélangent allègrement, puis je crois que ça se mélange encore plus allègrement chez les enfants. Tu as l'équipe jaune qui rigole, tu as l'équipe rouge qui pleure à chaudes larmes. Et heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés. C'est effectivement du vécu assez régulier dans les Kids Games. Et je crois que c'est ça pour nous, en tant que chrétiens, disciples du Christ, le sens de la fête. C'est oser s'exprimer devant Dieu et devant les autres en vérité. Avec nos émotions telles qu'elles sont, il n'y a pas finalement de jugement à avoir là-dessus, mais devant Dieu, on peut s'exprimer en vérité. Puis je crois que pour lui, la fête, c'est cette notion d'authenticité devant lui et devant les autres. Ce n'est pas parce que je pleure que Dieu a subitement arrêté de me bénir. Ça, c'est l'idée qu'on a un peu tout le temps en tête, parce qu'on a toujours un peu ce sentiment religieux qui reste accroché à nos basques. Mais c'est faux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Ce n'est pas une liaison immédiate, de loin pas. Puis est-ce que cette pensée de Jésus est vécue, expérimentée dans nos vies aussi? C'est la question que je nous laisse. La fête n'est pas réservée simplement à ces moments de joie, d'explosion, de musique. C'est aussi pleinement ça. Mais je dirais que pour nous, en tant que communauté et disciples du Christ, il y a une dimension qui est un peu plus globale. C'est qu'on arrive à faire la fête et à se réjouir de pouvoir être aux côtés de celles et ceux qui sont aussi dans les pleurs. Et puis là, c'est les paroles du psaume qui reviennent, hein, puis c'est aussi un psaume que Maria va pouvoir nous partager. « Tu me rendras mon honneur et de nouveau tu me consoleras. Et moi, je te dirai merci avec la harpe, mon Dieu, je chanterai ta fidélité. » Impressionnant, hein, comme il y a cette réunion de la joie, de la fête finalement, de la musique, avec cette notion de consolation. « Oui, ma bouche criera de joie quand je jouerai pour toi, car tu m'as sauvé. » Jour après jour, je redirai que tu es fidèle. En effet, ceux qui cherchaient mon malheur, les voilà couverts de honte et d'insultes. Il y a, pour nous croyants, la différence de cette réponse hors norme à la consolation qui nous est offerte en Dieu. Et c'est ça qui fait une différence capitale avec les personnes que nous pouvons côtoyer sur nos lieux de travail, nos voisins et compagnie. Est-ce qu'on porte cette espérance-là dans les domaines de nos vies? Parce que c'est vraiment ce qui fait une des différences de la foi chrétienne, c'est cette deuxième partie. Il ne s'arrête pas à heureux ceux qui pleurent, hein, et puis restez dans votre malheur, car ils seront consolés. Et je termine par cette idée de consolation, parce que là aussi, dans mon esprit, c'était systématiquement que ça venait de Dieu. C'est logique, hein, on dit c'est Jésus qui le prononce, heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés, ça doit venir de Dieu. En fait, il n'y a rien qui est précisé. Je ne sais pas si vous avez remarqué. c'est le raccourci un peu logique que peut-être vous avez aussi comme moi. Mais ce « ils seront consolés », ça peut très bien appartenir à l'ensemble du corps du Christ. Et là, on retrouve cette idée de fête en authenticité, finalement, que ce qui nous réunit, ce qui nous met ensemble, c'est cette totalité. Et peut-être que Dieu, et ça s'expérimente très fort dans cette communauté, et j'espère dans toutes les églises, ça s'expérimente par le corps du Christ. Souvent, la consolation passe parce qu'un frère ou une sœur a pu dire ou faire ou accomplir pour moi. Ce n'est pas Dieu qui a inscrit en lettre d'or, ça c'est toujours l'expression traditionnelle, la consolation sur un mur puis que je l'ai reçue. Ça passe très régulièrement par quelqu'un, peut-être même des fois des personnes qu'on ne revoit plus, mais qui ont été placées là sur notre chemin et qui ont pu nous apporter la consolation comme ils nous ont pu nous apporter autre chose et ce sens de la fête. Et cette réponse à la consolation, c'est vraiment notre trésor le plus précieux. C'est cette foi que nous avons et cette réalité de la communauté que nous formons et qui aime bien faire la fête dans toutes ses dimensions. Amen.